Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sculpté par Binge Audio.
Attention, cet épisode rapporte des scènes violentes et comporte des descriptions qui peuvent être choquantes.
Le journal, Olivier Bénis, bonjour.
Bonjour à tous. Opération en cours à Fallujah en Irak donc, mais aussi à Raqqa en Syrie, la capitale autoproclamée du califat selon l'organisation État islamique. Des forces kurdes et arabes tentent eux aussi de reprendre la ville. La Syrie, c'est justement le thème du reportage qui vient d'obtenir le prix Albert Londres. C'était hier soir à Londres justement. Sophie Nivelle-Cardinal et Étienne Huvert ont remporté le prix dans la catégorie audiovisuelle.
Porter la plume dans la plaie, la célèbre phrase d'Albert Londres prend tout son sens face au travail de Sophie Nivelle-Cardinal et Étienne Huvert. Disparu, la guerre invisible de Syrie est un documentaire coup de poing sur l'arme invisible de Bachar el-Assad.
Ce sont des gens qui disparaissent en masse depuis 2011. Ce sont des gens qui sont en train de mourir dans des centres de détention, comme on dit en syrien, en arabe, qui sont en fait des camps de concentration parce qu'on enferme au secret des gens et on les tue. Il faut témoigner coûte que coûte. Oui.
Ce documentaire sur les camps de la mort en Syrie, sur les disparitions arbitraires en Syrie, il commence, c'est un des projets, finalement c'est un des seuls projets qui aboutissent que j'ai lancé en 2013. Ça vient d'une discussion avec mon confrère Étienne Huvert. On est d'accord sur le fait que la Syrie peut pas devenir un trou noir de l'information parce qu'on peut plus aller là où on allait précédemment, qu'il faut continuer à raconter l'histoire. Étienne, mon confrère avec qui j'ai fait ce documentaire, il avait été très intrigué par ces familles qui cherchaient des proches qui avaient disparu. Moi, j'avais régulièrement été témoin, soit de gens qui étaient dans un état, mais je me souviens d'un homme à Alep et qui était arrivé en haillons, complètement décharné et qui était terrorisé. Et en fait, il sortait d'une des geôles. Il y avait les frères de Noras et de Youssef qui avaient disparu. Et donc, j'avais assisté à des négociations pour qu'ils les retrouvent, des paiements, des négociations d'argent, parce que il y avait aussi beaucoup de négociations là-dessus. Enfin, voilà, c'était beaucoup d'éléments dont Étienne et moi, on avait été témoins sur le terrain et finalement, dont on n'avait jamais raconté l'histoire en entier parce qu'un témoignage ne suffisait pas.
Dès 2011, ces services de sécurité arrêtent en masse et font disparaître ceux qui osent défier le pouvoir ou simplement ceux qui se trouvent sur leur chemin.
Et donc, fin 2013, on décide de travailler sur cette question des disparitions parce que c'est aussi une arme du régime dans cette guerre, parce que quand vous avez un proche qui disparaît et que vous savez pas où il est, ben vous vous mettez à le chercher, mais ça paralyse un peu toutes vos actions, parce que si vous faites quelque chose qui peut le mettre en danger, peut-être c'est le régime qui le tient, peut-être pas, mais ça paralyse l'action de des opposants. Il n'y a pas une famille de Syriens qui est pas touchée par ces disparitions, ça concerne tout le monde. On sait qu'il y a eu des rafles complètement arbitraires, les gens me l'ont raconté, à Alep, à Homs, des gens qui manifestaient pas. Il y en a effectivement, c'est ciblé, puis c'est un système en fait qui est connu de la dictature. C'était un système pour supprimer l'opposition, un système de répression, mais aussi un système économique. Il y a un livre qu'il faut lire qui s'appelle La coquille de Mustapha Ralifé, qui a été publié dans les années 2000, en 2007, qui raconte ce système-là, qui raconte les bagnes. Là, au moment de la guerre, on passe à autre chose, parce qu'il y a les prisons, mais il y a les centres de détention, et là, il y a une vraie distinction, c'est-à-dire que les centres de détention, c'est des trous noirs, ça peut être aussi bien une cave d'un commissariat, qu'une école, un hangar, un stade. C'est quand vous arrivez dans les prisons du régime que vous savez que vous allez survivre. Et que là, il y a peut-être un moyen de s'échanger, il y a un moyen de négocier. Ces centres, moi, ce que j'ai, oui, il n'y a pas autre chose que des camps, enfin, ce sont des camps de la mort, quoi. Le but, c'est de ce que nous avait dit un général, un ancien chef de la sécurité politique, d'un des services de sécurité, c'est que le but, c'était de tuer Pierre pour éduquer Jean. C'est à ça que ça servait, donc il ne s'agit pas d'obtenir des informations, il s'agit juste de briser l'homme, de briser la femme.
Quand je suis sorti de détention, j'ai retrouvé mes amis. Mais disons que j'étais sur le qui-vive. Une première chance, ça peut arriver. Mais une deuxième chance avec le régime syrien, c'est impossible.
Quand il est arrivé, je ne l'ai pas reconnu. Je n'ai pas reconnu cette personne qui me faisait signe de la main. Je ne la connaissais pas. J'étais sidérée par son apparence. C'était quelqu'un d'autre. Je n'ai pas reconnu mon mari. Il était maigre. Son visage était celui d'un malade.
Tout ça, malheureusement, n'est pas nouveau et ça a existé sous le régime nazi. C'est le décret Nachtonnebel qui est donc nuit et brouillard, qui date de 1941, qui est de faire disparaître les opposants et de les détenir au secret absolu. Et c'est extrêmement cruel. C'est extrêmement cruel. Ce système existait avant la révolution, avant la guerre. Après, les prisons, donc il y a une distinction entre les prisons, les centres de détention, mais ces prisons, elles ont joué un rôle parce qu'au moment des premières manifestations, au printemps 2011, le régime va libérer beaucoup d'islamistes qu'elle détenait dans les prisons. Et on va retrouver ces islamistes après à la tête de certaines brigades, des brigades salafistes, de brigades de Jabhat al-Nusra, d'Al-Qaïda. Il y a un chef très connu de Jaysh al-Islam, qui à un moment donné était une brigade très très importante, Zahra Nalouche, qui était détenue dans les prisons de Bachar al-Assad, du régime, et d'ailleurs qui était connue en fait comme une balance à l'époque. Donc ces prisons, elles ont joué un rôle, et le régime, il l'a sciemment, ça a été une stratégie pour empoisonner finalement la révolution et ses manifestations. C'est pas nouveau, hein, on sait que déjà au moment de l'invasion américaine en 2003, c'était un centre de recrutement en fait d'Hamas et envoyait les djihadistes même sous le nez des Américains. Les recrutements se faisaient même devant l'ambassade américaine à Damas pour les envoyer se battre en Irak. Donc ce machiavélisme du régime, il est connu en fait.
Quand la révolution a pris de l'ampleur, il y a eu des ordres. Faites ce que vous voulez pour éteindre cette révolution, pour que le régime garde sa force et sa terreur.
Donc comment on enquête sur des gens qui ne sont pas là? Comment on fait un film sur des gens qui ne sont pas là, sur des disparus? C'est une gageure. Quand on a commencé à se dire qu'il fallait enquêter là-dessus, faire un film, quelques semaines après, c'était en janvier 2014, il y a des photos qui sortent d'un photographe du régime syrien qui est exfiltré et qui sort avec plusieurs dizaines de milliers de photos, des photos de cadavres avec des numéros. Là, c'est une preuve, c'est un élément de preuve. En tout cas, nous, on se dit effectivement que ça va faire partie de notre enquête. Et puis, un an après, quand on commence vraiment le tournage et à enquêter, et etc., là, il y a des gens qui sont sortis, qui ont survécu et qui sont capables de raconter. Et donc, il y a des témoignages directs.
Quand je suis arrivé à l'aéroport de Medze, ils m'ont emmené dans la salle d'interrogatoire. D'abord, on te met un bandeau. Tu ne vois rien, tu entends seulement. Ensuite, on te déshabille. Tu n'es plus qu'en sous-vêtements. Là, on m'a dit, écoute, te tuer pour moi, c'est plus simple que boire une tasse de café.
Peu importe ce que je dis, ce que les autres racontent, rien ne décrira exactement ce qui se passait là-bas. Ce n'était pas l'enfer, c'était pire que l'enfer.
Moi, à ce moment-là, je suis quand même, je suis complètement parano. C'est-à-dire que pendant des années, je n'ai pas dit le mot Syrie au téléphone, ou j'ai pas même écrit ce mot-là par email ou par message. Donc, en fait, on fait que des rendez-vous en tête-à-tête, ce qui implique d'être avec les gens dans différents pays. On passe beaucoup de temps, et je pense que c'est ça le. Souvent, on nous demande comment vous avez trouvé. On y passe du temps, et ça, c'est le vrai luxe. On passe une année entière à travailler là-dessus, à trouver des gens, des témoins. Moi, j'étais obsédée par le fait de trouver des gens qui avaient participé au système. Je voulais pas seulement, oui, c'est important et c'est nécessaire. Et ces témoignages de survivants sont nécessaires, mais il fallait aussi des documents qui prouvent que ce qu'on racontait était un système. Pour moi, cette parole de victime et de survivant, elle est d'autant plus forte qu'il y a les gens qui ont participé au crime. Ça rend d'autant plus réel la parole des victimes qu'il y ait des bourreaux qui parlent.
Quand j'étais chef de branche, j'avais des détenus. Oui, il y avait des détenus, chez moi et chez les autres. Ils utilisent toutes les méthodes de torture. Il y a des outils pour ça. Le bâton, le fouet, la roue, la chaise allemande qui te casse le dos, le tajbi, on te suspend au mur ou au plafond, l'électricité. Quand tu interroges, tu dois utiliser toutes ces méthodes. La question ne se pose pas.
Cette question des bourreaux, moi, elle me... commettre des crimes, tuer quelqu'un, c'est quelque chose qui m'est très étranger, même si j'ai vu beaucoup de gens mourir, mais en tout cas, dont moi, je ne suis pas capable. Et donc, cette question du mal, elle n'est pas fascinante, mais il faut la comprendre. Quand on passe beaucoup de temps dans des guerres, quand on voit tout ce qui s'y passe, c'est forcément une question sur laquelle on a envie de se pencher. Donc, après, moi, c'était dans le regard. Il y a des gens qui vous disent des choses et dans le regard, vous savez que ils savent que c'est pas vrai. Et donc, ils ont une notion du bien et du mal, même s'ils racontent autre chose. Et par contre, il y a ceux que moi j'appelle les fous, avec ce regard, un regard fixe ou des, enfin. Et là, il n'y a pas de notion du bien et du mal, quoi. Il y a une forme de folie. Ceux que j'ai rencontrés, oui, il y avait ça, il y avait ce distinguo. C'est les gens qui ont sciemment tué. Après, la question, on ne sait jamais pourquoi les gens vous parlent ou acceptent de vous parler. J'ai beaucoup d'interrogations là-dessus. Pourquoi on nous parle pour raconter des choses? Parfois, c'est parce que c'est ce qui vous donne une identité. Parfois, c'est parce que vous êtes capable d'écouter pendant des heures. Et il faut prendre le temps d'écouter, parce que souvent, les gens nous ont raconté des choses qu'ils n'avaient jamais racontées à personne. Et il y a toujours un moyen de vérifier l'information. Quelqu'un, même qui vous raconte des choses horribles, mais dont il y a quelque chose qui pince, où vous dites ça va pas instinctivement, où il y a quelque chose qui me dérange. Même si vous êtes à l'extérieur du pays, même si vous êtes dans une guerre, vous avez toujours moyen de retrouver d'autres gens qui étaient au même endroit, au même moment. Oui, c'est long, oui, c'est un travail, mais il faut le faire. Parce qu'un seul témoignage, ça porte atteinte à la crédibilité de tout le reste. Moi, je compare toujours le news, c'est du 100 mètres. Il faut mettre une énergie folle très vite, souvent dans la journée, alors que faire un documentaire, c'est de l'ordre du marathon. Il faut tenir la longueur. Et cette enquête, ce film, on l'a lancé en hiver 2013 et on a travaillé dessus pendant 2 ans, dont un an à temps plein. Et finalement, il va être diffusé 2 ans plus tard, à l'hiver 2015. C'est un film que j'ai pas revu depuis des années, que je voulais pas re-regarder. Les disparus, ce documentaire. J'avais pas envie de revoir cette histoire parce qu'elle continue en fait, rien n'a changé. Et que ça me dérange que ça continue. Et je l'ai revu là pour ce podcast. Et oui, c'est important, ça continue, mais c'est important de le revoir. Et à la fin du film, c'est un de nos témoins, un des survivants qui. Ce qu'il dit est très juste, c'est que on s'habitue à tout, on oublie, on s'habitue, et pourtant. La tragédie continue dans ses formes les plus profondes. C'est très juste et en même temps c'est dérangeant parce que ça fait des années que ça dure. Et j'ai jamais pensé en faisant ce film en 2014, en 2015, que des années après, ça serait toujours d'actualité, c'est toujours ça qui se passerait. Le documentaire est diffusé juste après, quelques jours après, il y a les attentats du Bataclan en France. Et évidemment, c'est l'histoire, en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est l'État islamique, c'est l'histoire de l'État islamique qui va prendre le dessus dans l'actualité. Et c'est ça qui va intéresser les médias occidentaux, intéresser l'Occident. Et avec raison, c'est un enjeu de sécurité important, il y a des attentats sur le sol français. Mais après, il va y avoir un amalgame entre cet État islamique et ce qui se passe en Syrie, et la rébellion contre Bachar al-Assad, contre le régime. Et toute l'histoire, en fait, de ces gens qui s'opposaient au régime, elle disparaît. Au moment des attentats, et Charlie Hebdo et Bataclan, j'ai beaucoup de messages d'amis en Syrie qui trouvent ça désolant, qui sont tristes, qui m'envoient des condoléances. J'avoue que c'est toujours un peu curieux parce que nous, les gens qui sont morts en France et de manière terrible, c'est vrai qu'en Syrie, il y avait 100, 200 personnes qui mouraient sous les bombardements par jour. Et j'ai trouvé ça très touchant que ces Syriens m'envoient des condoléances et s'inquiètent de savoir si tout se passait bien ici. À ce moment-là, moi, je ne vais pas en Syrie, c'est beaucoup trop dangereux. Mais il y a la guerre qui continue pendant ce temps-là. Nous, effectivement, pendant le temps où on a fait le documentaire, qui est un temps long, eh bien, la guerre a continué. Il y a eu cette crise des migrants qui a bouleversé l'Occident, qui a bouleversé l'Europe. Il y a des centaines de milliers de personnes qui sont parties sur les routes. Voilà, c'est la plus grande crise humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Moi, ce n'est pas des événements que je couvre tout de suite, mais il va se passer quelque chose de très important et qui va changer complètement, qui va faire basculer le conflit. C'est l'intervention de la Russie en septembre 2015 pour se battre contre l'État islamique.
À suivre.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? Qui étaient ces disparus ? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée ? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.